Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons passer environ une heure ensemble pour parler d'un sujet très vaste, le sexisme et la misogynie dans les jeux de rôle. En 2018, on estimait qu'il y avait environ 17% de joueuses. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 20%. Mais on se rend compte que quand même les femmes sont largement minoritaires dans ce type de jeu. On peut se poser la question de pourquoi. Une des raisons serait peut-être qu'elles viennent moins à cause de comportements déplacés. Et dans ce cas-là, que faire pour pouvoir créer des jeux sécurisés? Pour parler de ce vaste sujet, j'ai à côté de moi la moitié. Alors pour vivre, vous torturez des collégiens avec des théorèmes comme celui de Pythagore. Ça fait un peu froid dans le dos. Vous êtes aussi autrice de jeux de rôle, notamment Star Max aux éditions Léa. À côté, nous avons Stéphanie Chaptal. Vous vous passionnez depuis l'enfance pour tout ce qui touche à l'imaginaire. Journaliste, traductrice, autrice, vous avez notamment écrit des biographies hommages comme celle de Hayao Miyazaki. Quel bonheur. Et aussi celle de James Cameron qui va sortir là aux éditions Inis. Et enfin, nous avons Raphaël Granier de Cassagnac. Vous êtes physicien des particules au CNRS. Vous avez créé en 2019 la chaire Sciences et Jeux vidéo à l'École Polytechnique et votre troisième roman Resilient Thinking est paru cette année chez Mnemos. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir depuis combien de temps vous jouez aux jeux de rôle et est-ce que vous avez vu des changements de comportement pendant ce laps de temps, des comportements bien sûr sexistes ou misogynes dans le jeu de rôle?
Alors, personnellement, je joue depuis plus de 33 ans. J'ai d'abord eu une expérience donc, dans un cercle privé. J'écris que depuis récemment. Et je dois avouer que dans mon cercle privé, moi, je n'ai jamais eu de problème de sexisme. En revanche, de par mon métier, j'ai également eu la mauvaise idée d'initier les enfants au jeu de rôle. Et bon, c'est vrai qu'avec les adolescents, ça posait davantage de problèmes. Donc, j'avais par exemple une surveillante qui m'aidait à animer le club de jeux de rôle et qui me disait « Non, mais là, il faut que tu interviennes. J'en ai marre de me faire violer par des bergers allemands, quoi, systématiquement. » voilà. Donc, mais je dois avouer que le sexisme, pas plus qu'en fait en dehors du jeu de rôle. Hein. J'ai fait des études scientifiques, donc des comportements sexistes, j'ai eu à en faire face énormément, mais pas plus qu'en jeu de rôle, en fait.
Moi, j'ai découvert le jeu de rôle comme beaucoup avec les livres dont vous êtes le héros. Après, j'ai eu une pratique en physique. Qui reste en cercle privé, donc avec des amis sur différentes tables, donc on se connaît depuis longtemps. Et le premier qui essaye d'avoir un comportement déplacé sait qu'il y a au moins une joueuse qui est ceinture noire, donc il a intérêt à se tenir à carreau. Et sinon, de par ma pratique de journaliste, je connais bien le monde du jeu vidéo, je connais bien des autrices et auteurs de jeux de rôle. Et effectivement, là, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Mais j'en ai eu entendu des vertes et des pas mûres dans le jeu de rôle, mais j'en ai entendu et j'en ai vu des vertes et des pas mûres, surtout dans le jeu vidéo. Et généralement, dans le jeu de rôle, à part ce qui s'est passé récemment à Octogone, c'est on va violer ton personnage, mais c'est pas on va te violer toi. Et j'ai déjà vu des comportements sur World of Warcraft ou autre. Où tu avais quasiment toute une guilde qui disait « on va te retrouver, on va te violer ». Non, c'est juste pas possible. Que ce soit que ça s'adresse à un homme à une femme à un homme ou n'importe qui d'autre, c'est pas possible. Voilà.
Je suis d'accord avec toi. Donc, moi, je joue depuis 38 ans, j'ai le record. Et essentiellement dans le cercle privé aussi, j'ai fait pas mal de conventions dans les années 90, dans lequel, je me souviens, il y avait très très peu de femmes. Et puis, quand il y en avait, elles étaient très très fortes. Et ça me faisait penser qu'il manquait l'essentiel du public, en fait, que c'était vraiment dommage. Et donc, il y avait sans doute des raisons pour ça. On va peut-être réussir à les analyser un peu ici. Et puis, j'ai commencé à écrire dans le jeu de rôle, en gros, dans les années 2000. Et donc, moi, j'ai grandi avec je suis le prototype du rôliste homme blanc scientifique des années 90, donc je ne sais pas ce que je fais ici d'ailleurs, mais donc j'ai grandi vraiment dans cet environnement-là, très masculin, très scientifique, et j'ai commencé à écrire dans les années 2000 chez Multisim sur plusieurs jeux, mais en particulier sur Agon. Et là, j'ai vu arriver dans les années 2000 plein d'autrices en fait qui venaient du monde littéraire, qui jouaient que ensemble, que des tables de filles. Et j'ai trouvé que c'était très frais et très rafraîchissant en fait d'avoir ce monde-là que à l'époque j'ignorais complètement. Je pense que ça s'est pas vraiment amélioré depuis, donc je pense que c'est le cœur un peu du débat aujourd'hui. Mais et pour revenir à ta question, je suis vraiment la personne la moins bien placée pour parler de ça ici, évidemment, mais j'ai pas l'impression d'avoir constaté dans ma pratique du jeu de rôle de comportement sexiste, mais je me trompe peut-être.
Après, je suis d'accord, ce que tu disais, la moitié, effectivement, le sexisme, on en trouve partout, pas que dans le jeu de rôle, mais il y a aussi beaucoup de... Moi, je suis allée voir plein de blogs, plein de forums, et effectivement, il y a aussi une souffrance dans certains jeux, et c'est dommage qu'à cause de ça, certaines personnes ne veulent plus aller faire des grandeurs nature. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire, finalement, pour pouvoir éviter ces situations de malaise, qui peuvent être bien sûr dues au sexisme, à la misogynie, mais à d'autres choses encore. Moi, je me suis posé aussi la question de différencier un peu le rôle qu'on va jouer et l'individu, parce qu'on peut avoir des individus sexistes, misogynes, mais, ou des individus qui ne le sont pas du tout, mais qui ont ce rôle à endosser et jusqu'où... ça peut aller aussi quand on endosse un rôle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Quelles sont les limites qu'on doit se poser? C'est une vaste question, je vous laisse y répondre.
Alors, peut-être que pour régler le problème du sexisme dans le jeu de rôle, je crois que c'est vendredi quand on dînait ensemble, on a eu une idée, c'est peut-être de faire des enfants. Ce serait mauvais pour la planète et très mauvais pour la cause féminine, mais bon, voilà. En fait, on a remarqué que c'est vrai que la première génération de joueurs a fait des enfants qui maintenant, donc, commencent à jouer. Et on fait jouer aussi bien nos filles que nos garçons. Et là, si vous allez dans la salle jeu de rôle, en fait, il y a plus de 20% de filles qui sont dans cette pièce-là. Il y en a plus de 20%. On frôle, je pense, les 40%. Et le plus jeune meneur des Utopiales, je pense que c'est une fille de 12 ans. Une fille qui fait jouer des enfants qui ont à peu près son âge. Et à sa table, y a autant de garçons que de filles. Bon, donc faire des enfants, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors peut-être de l'initiation, alors.
Et il faut aussi voir que... tu parlais des rôles qu'on endosse qui peuvent être sexistes et compagnie. Mais c'est simplement comme n'importe quel jeu, à un moment donné, que ce soit en public ou en privé, on se dit, voilà, tu vas jouer tel personnage, je vais jouer tel personnage, il va faire jusque ça, 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 et à un moment, on se met d'accord, ton personnage est un violeur, voilà, ça risque d'arriver. Mais si tu te mets d'accord, c'est pas comme certaines pratiques où tu avais deux joueurs qui sont pas d'accord sur un sujet, et lui dit, tu continues comme ça, je vais violer ton personnage. Non. C'est dans la même... Tu joues un personnage qui est évil, qui va faire sauter des bombes partout, qui va détruire un pays, tu joues ce personnage-là. Mais c'est normal, c'est une game, tout le monde est d'accord. Mais c'est pas ton personnage qui est même un barbare de base et compagnie. Le barbare de base, il n'est pas forcé de... d'être sexiste avec toutes les serveuses de taverne. C'est pas parce que tu es une joueuse que tu vas devoir être forcément une soigneuse, forcément la petite créature frêle, l'elfe toute mignonne. Tu peux être une joueuse et avoir envie de jouer une grosse orque qui va tabasser tout le monde.
Totalement.
Ouais, peut-être ce que tu disais sur le rôle, la distinction entre le rôle et le joueur ou la joueuse, pour moi c'est le point clé du jeu de rôle en fait. Le sexisme, il y en a partout, dans tous les médias, dans toute la société, donc ça c'est présupposé, il faut qu'on ait tous conscience de ça et qu'on le combatte partout où il est. J'ai une légère tendance optimiste à penser que peut-être parmi les rôlistes, il y en a peut-être un peu moins, je contredirais sûrement ou pas, je sais pas, mais peut-être un peu moins. Le vrai truc du jeu de rôle, c'est que c'est du jeu de rôle en fait, et donc... le joueur, l'acteur, il a un moyen de se réfugier derrière son rôle pour faire n'importe quoi. Et c'est ça pour moi qui est clé, c'est-à-dire que c'est pas moi, c'est mon personnage. Et donc ça dédouane plein de comportements. Puis alors, vous savez aussi l'expression de, on peut exprimer tous ces fantasmes, tous les trucs qu'on voudrait faire, qu'on n'a pas le droit de faire. Tout ça. Donc c'est ça le point clé en fait. C'est là que le jeu de rôle est singulier pour moi, c'est qu'en fait on a une espèce d'immunité qui est liée au fait qu'on est en train de jouer un rôle, c'est tranquille, on fait ce qu'on veut. Et c'est ça pour moi qui justifie tous les moyens dont on va peut-être parler, d'éventuellement désamorcer, c'est-à-dire clarifier un peu comme tu disais aussi, il faut que ce soit clair où est le rôle et où est le personnage. Si le personnage fait un truc qui ne plaît pas au joueur ou à la joueuse, il faut des moyens, des protocoles pour éventuellement arrêter la partie et dire non, ça on fait pas, on fait pas. Donc pour moi c'est ça qui est singulier. Mais néanmoins je reviens à mon premier argument, le sexisme il est en fait partout et le jeu de rôle n'est en fait le reflet du sexisme qu'on trouve dans d'ailleurs toute la littérature ou tout le cinéma qui inspire une grande partie des jeux de rôle, on va peut-être en parler. Mais c'est vraiment ambiant et le jeu de rôle n'est pas singulier par rapport à ça. Ce qui est singulier, c'est la distinction entre le rôle et le joueur ou la joueuse, de mon point de vue.
Et puis également, il y a le fait de pouvoir jouer un personnage qui n'est pas nécessairement de notre propre genre. Moi, dès le début, j'ai joué aussi bien des hommes, des femmes que des personnes asexuées. Des extraterrestres, enfin voilà quoi. Ça, c'est très important qu'on n'arrive pas dans une convention en nous disant non, t'es une fille, tu vas jouer une fille. Quoi. Ou alors, t'es un garçon, bah, toi, tu vas jouer un garçon. Quoi. Le jeu de rôle a ça de magnifique qu'on peut changer de peau, on peut changer de vie, on peut vivre des tas et des tas de choses. Il faut ne rien interdire.
C'est le même problème que tu as dans le cinéma. On dit « Ah, mais il y a des elfes qui sont noirs ou des hobbits qui sont noirs. » Non, mais attends, tu parles d'un livre ou d'un jeu de rôle où il y a des dragons. Tu vas jouer un dragon, tu vas jouer un hobbit. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, si tu as envie de jouer un hobbit noir ou tu es une femme, tu as envie de jouer un homme, fais-toi plaisir. C'est un rôle. C'est comme tu es une femme, tu veux jouer une orque, tu veux jouer une elfe. Les orques et les elfes, je suis désolée, ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc forcément, si tu as envie de jouer autre chose que ce que tu es, bah fais-toi plaisir.
Et de temps en temps, c'est drôle aussi de jouer sur les stéréotypes. C'est-à-dire qu'on peut par exemple jouer une barbare avec un bikini, etc. etc. mais bon, tatouée avec les maladies, ces maladies vénériennes auxquelles elle a résisté. Quoi. Enfin, tout de suite, ça refroidit. Quoi. C'est bon.
C'est quand on parlera des costumes aussi, parce que les costumes de guerrières, que ce soit dans le jeu de rôle ou dans le jeu vidéo, t'as envie de dire non, c'est juste pas possible.
Les armures qui protègent pas beaucoup en fait.
Hein. Ouais, les armures qui protègent pas. Ou tout bêtement, toutes les combattantes avec des talons hauts, vous avez déjà essayé de faire un maigri avec un talon haut, un coup de pied? Bon courage, surtout pour pas tomber à la fin. Donc c'est pas probable. Après, il y a aussi les armures hommes qui ne sont pas forcément très douées. Un jour, on m'expliquera pourquoi les mages n'ont jamais d'armure en cuir. Je veux bien qu'ils ne se trimballent pas de la ferraille, mais le tissu, même à distance, une boule de feu, ça ne va pas marcher.
Oui, mais ils ont des sorts.
Oui, mais ils ont des sorts. Le tissu, ça ne va pas les protéger de leurs sorts. Quoi.
Dans les premières règles de donjon, c'est parce que ça les encombrait. Quoi. Donc,
Le cuir, ça passe quand même.
C'est là, je trouve l'idée intéressante, c'est qu'effectivement, ça encombre, donc on l'enlève. Il y a des choses qu'on peut aussi se dire, on fait pas ça parce que c'est pas pratique. Et est-ce que dans les backgrounds qu'on va créer, par exemple, on a parlé par exemple du viol, dans les campagnes de fantasy de médiéval, on va souvent avoir le viol comme ressort narratif. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Pour créer un personnage qui va avoir été brisé, avoir une faiblesse ou pas. Finalement, dans les campagnes médiévales, on n'a pas du tout les chevaliers qui vont prier à 5 heures du matin, alors que historiquement, on pourrait très bien les avoir. Donc, est-ce qu'il faut rester toujours sur des jeux qui vont être plus proches de la reconstitution, ou est-ce qu'on peut aussi s'en dégager pour créer des jeux qui n'aurait pas de situation qui pourrait être conflictuelle?
Et précision, accessoirement, le viol médiéval, pour relativiser les choses, hein. C'était pas non plus tous les 4 matins que les gens se faisaient violer à tout bout de champ. Il y avait quand même des règles, entre autres. Hein, donc, il y a un fantasme du viol ou de la violence médiévale qui n'était pas forcément... D'accord, il y avait beaucoup plus de guerres, d'accord, il y avait beaucoup plus de morts, il y avait beaucoup plus de problèmes, mais ce n'était pas non plus tous les 4 matins.
On pouvait très bien vivre sa vie, être une femme, avoir sa propre entreprise, sa propre boutique, et ne pas se faire violer. Donc on peut très bien imaginer une campagne où on est dans un monde médiéval ou antique, et ça se passe bien. Et pour moi, la clé, c'est vraiment, au moment de commencer la table dans cet univers, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Tout le monde poser la question aux joueurs, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent? On est là pour passer un moment ensemble à s'amuser. Donc c'est juste, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent? Ça va être, certains vont dire, ouais, non, moi, j'aime pas trop les scènes où il y a des viols. Il y en a d'autres, ça va être, oh, bah, excuse-moi, mais tu vas pas mettre de scorpions parce que je suis phobique des scorpions, des trucs comme ça. C'est tout, ça va être, qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui va vous gêner pour vous amuser? Parler avant, tout bêtement. Déjà, c'est une première étape.
Puis c'est aussi une solution de facilité, quoi. C'est-à-dire qu'on va vouloir construire quelqu'un qui a des faiblesses, hop, tout de suite on va penser au viol. Ben non, il y a d'autres façons de construire des problèmes. Ça peut être, je sais pas moi, un parent qui est mort et qu'on a du mal à se relever de ce deuil. Ça peut être enfin, des tas et des tas de solutions. Ça peut être... on m'a bougé de l'endroit où j'ai vécu toute ma vie, il a fallu que je fuis parce que il y a 36 000 façons de construire des failles dans un personnage et pas, sans nécessairement passer par le viol. Le viol, c'est la solution de facilité, quoi. C'est la solution pauvre, en fait.
Ouais, je suis d'accord. Le jeu de rôle, c'est un formidable terrain d'expérimentation. Et ce que je trouve qui est dommage, c'est que souvent dans les... Plein de jeux de rôle, il y a des jeux fantastiques, mais c'est souvent ceux qui sont le moins vendus, en fait, c'est dommage. Mais dans les canons du jeu de rôle, dans les grosses licences du jeu de rôle, cette expérimentation-là, elle manque un peu. C'est-à-dire, effectivement, dans une table de génération de personnages, on pourrait trouver tout un tas de propositions, comme ce que tu viens d'avancer, pour de traumatismes différents que le viol, ou de choses comme ça, ou ne serait-ce que d'inviter le joueur au moment où la joueuse, quand il ou elle est en train de créer son personnage, à réfléchir à tout ça, à se dire est-ce que le bon traumatisme c'est celui-là, est-ce que c'est autre chose, est-ce que mon personnage qui est un homme, ce serait pas plus rigolo si c'était une femme ou l'inverse, ou de jouer avec ces trucs-là. Et je trouve souvent dans les règles de création de personnages, c'est assez peu proposé, dans plein de jeux c'est proposé, mais dans les grandes licences c'est assez peu proposé de prendre du temps et de réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment intéressant à jouer et à expérimenter. Enfin, c'est justement à pas reproduire les énormes clichés qui sont partout dans tous les médias et tout ça. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et bon, j'espère qu'il n'y a quand même pas beaucoup de jeux de rôle dans lesquels il écrit noir sur blanc qu'il faut l'avoir été violé pour, enfin que tous les personnages ont été violés dans leur background.
Heureusement que non. Mais oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Et je me demande, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place déjà pour s'il y a une situation de conflit, une situation de mal-être? Il y a la X-Card qui permet d'arrêter tout de suite une situation de jeu. Il y a les mots-clés. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant de mettre en place une X-Card dans un jeu ou des mots-clés pour que la situation s'arrête? Ou est-ce qu'il faudrait faire autre chose?
Déjà, je pense qu'il faut séparer la sphère privée et la sphère publique. C'est-à-dire, quand on fait jouer des copains, on les connaît, quoi. On sait comment ils vont réagir et il y a des choses qu'on doit s'interdire, puisque quand même l'idée, c'est qu'on passe tous un bon moment. Après, quand on fait jouer en convention grandeur nature, là, on est face à des gens qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une réflexion à avoir en amont. Qu'est-ce qui peut mettre mal à l'aise quelqu'un et éviter justement ce genre de situation-là? À mon avis, déjà, quand on a besoin d'avoir recours à une X-Card, c'est qu'il y a un problème, quoi. C'est que le scénario a été mal pensé, quoi.
Après, on peut se dire aussi, dire aux gens, il y a une X-Card, même si on a bien pensé son scénario, ça va rassurer des gens. Comme il y a certaines personnes, avoir des une convention, on a des meneurs et des meneuses, les gens vont se dire, ok, je peux venir, ça va m'accueillir. Avoir des gens comme soi, qui sont autour de la table, ça peut aider. Et tout bêtement, dire, voilà, vous êtes la scénario au départ, prendre l'habitude de demander qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui ne vous gêne pas. Et en convention, avoir des endroits où les gens peuvent se calmer, peuvent se détendre, et aussi avoir des référents. Comme ici, il y a aux Utopiales, il y a des référents au cas où on s'aperçoit quelqu'un a un comportement problématique et compagnie. Il y a toute une liste de personnes qu'on peut contacter pour signaler il s'est passé cela. En convention, c'est quand même pratique de dire, voilà,
excusez-moi, je ne suis pas bien à cette table-là, il s'est passé ceci, cela, voilà. Et à qui je m'adresse, et comme ça, c'est telle personne qui m'a posé problème. Donc ça ne veut pas forcément dire que cette personne-là va être bannie de suite, mais ça veut dire aussi que les gens vont avoir un œil plus attentif en disant « Ah, le problème, là, il y a eu un souci. » Parce qu'effectivement, dans la sphère privée, ça se règle entre nous, entre privés. Après, il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'il y a du jeu de rôle de plus en plus en ligne. Et je parle bien de jeu de rôle en ligne, pas de jeux vidéo, JRPG ou autre, avec les Roll20 et compagnie. Et là, l'intérêt, c'est qu'il y a, toute une génération qui vient là-dessus suite au confinement et qui joue en ligne parce que on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Parce que sauf à mettre la caméra ou le micro, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Donc ça peut être n'importe qui. Et ça libère encore plus. Et ça permet de jouer avec d'autres personnes que la sphère privée sans avoir le problème de sur qui je vais tomber.
Voilà. Ouais, c'est super intéressant ça. Sur la X-Card, je trouve que c'est super bien. Et en même temps, il y a un gros travers. Donc c'est super bien parce que pour moi, si c'est bien expliqué au début, bien mis en place, on va pas les utiliser, c'est-à-dire que ça va être une espèce de rempart parce que tout le monde sait que ça existe et donc plein de gens vont se dire ah, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça, non je vais pas le faire parce que c'est un peu moyen, je risquerais de me prendre une X-Card, c'est la honte, je caricature un peu, mais il y a un peu ça, donc je trouve que c'est un super garde-fou en fait. Et pour moi c'est les meilleurs garde-fous, c'est de mettre en place des systèmes précisément pour qu'à la fin on n'ait pas à les utiliser, c'est juste le fait qu'ils soient là qui fait que tout s'apaise et tout va bien. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que X-Card ou pas, il y a des gens qui ne vont jamais oser les dégainer quand même. C'est-à-dire, ça existe, il y a des gens qui vont se retrouver dans des situations problématiques et même s'il y a un protocole qui existe, ils ne vont pas oser le dégainer devant la personne qui les agresse ou parce qu'il y a des gens qui regardent ou parce qu'ils ont honte ou n'importe quoi. Donc, je pense qu'il ne faut jamais se limiter à un seul protocole, se dire qu'un protocole est magique et va régler tous les problèmes. Il y aura toujours des problèmes qui resteront. Et donc les salles calmes et tout ça que tu décris, je trouve que c'est un autre protocole qui est vachement intéressant, où tu sors du jeu, éventuellement tu vas parler à quelqu'un d'autre qui n'est pas dans le jeu, qui est à côté du jeu, pour lui expliquer que ça ne va pas, là, qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc pour moi, donc les dispositifs sont bien, justement pour à la fin ne pas les utiliser, parce que ça rassure tout le monde, mais il faut faire super attention et ne pas se dire, voilà, on a trouvé la solution miracle, et il n'y a plus à avoir de problème, quoi, parce que ce n'est pas vrai. Il y a une multitude de problèmes qui peuvent arriver. Et sur la sphère privée et la sphère publique, il faut aussi faire gaffe dans la sphère privée, je pense, en fait. Parce que, en fait, des fois, on joue avec ses potes, on est crevé. Il y a des trucs qui dépassent. Ça a beau être nos potes. Ça peut quand même déconner aussi dans la sphère privée, même si c'est potentiellement moins grave parce qu'on se connaît et qu'on va se rabibocher après, quoi. Mais il n'y a pas de magie, en fait, dans tout ça, quoi.
Bah moi, il y a des joueurs et des joueuses qui m'ont dit, nous, la solution, c'est simple. C'est pas d'alcool et pas de drogue pendant qu'on joue. Comme ça, on se désinhibe pas et donc on n'a pas de risque d'avoir la parole qui fuse comme on a souvent au repas de famille, le vieux tonton qui va sortir la grande blague. Et s'il n'y a pas d'alcool, pas de psychotropes ou autres autour de la table, les gens sont concentrés sur leur jeu, jouent et ça dérape pas.
Il y a une autre solution également, c'est le jeu de rôle, on le conçoit essentiellement avec un seul meneur. Or, on peut aussi partager la maîtrise du jeu avec une personne qui va mener le gros de l'histoire et une autre qui va faire attention aussi à comment ressentent les joueurs, qu'est-ce qu'ils ressentent, et peut-être leur souffler de temps en temps des mauvaises idées, etc. Faire jouer le rôle de la mauvaise conscience ou de la bonne conscience au contraire. Et voilà, peut-être avoir un autre joueur qui n'est pas un joueur vraiment, qui n'est pas le meneur non plus, qui va prendre un pas de côté et qui va regarder ce qui se passe autour de la table et qui va jouer un rôle, quoi. Nous, à Starmarks, on a le secrétaire général, donc, qui est le meneur de jeu, et on a le commissaire au rationnement qui va distribuer en fait, une sorte de monnaie fictive qui va permettre en fait, aux joueurs de corrompre le secrétaire général pour faire avancer l'histoire dans le sens où ils en ont envie, quoi. Et donc, on se partage un tout petit peu la maîtrise.
Un espèce de rôle de garant, quoi, c'est ça, qui surveille le...
Oui, voilà.
C'est vrai que quand on mène, des fois, on ne voit pas ce qui se passe, en fait. On est à fond dans notre scénario, on voit les joueurs, et on ne voit pas qu'il est en train de se créer une tension entre deux joueurs, qui est peut-être même à côté de l'action principale, et effectivement, avoir quelqu'un qui observe que ça, ça peut être un bon...
Mais même, ne serait-ce que pour souffler des idées aux meneurs, en disant, un tel, ils ont réagi comme ça, ce serait marrant que tu mènes une histoire dans cette direction-là, quoi. C'est souffler de mauvaises idées, en fait, aussi, c'est drôle.
C'est sympa, c'est très perfide aussi. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Effectivement, d'être à plusieurs, ça permet de mieux encadrer, de mieux voir ce qui se passe et de pouvoir aussi eh bien, d'être là en cas de besoin. J'ai vu les fondatrices des âmes sœurs, qui est une association féministe de jeux grandeur nature qui est basée à Strasbourg. Elles proposent un système de double inscription. Sur la liste des préinscrits, il est possible d'ajouter un drapeau allant du vert au rouge à côté du prénom de chaque personne. Alors, l'objectif de ça, de ce petit drapeau, est de prévenir les participantes et les participants si un individu a déjà eu un mauvais comportement. Alors, que pensez-vous de ça? Est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce qu'au contraire, c'est une bonne idée?
Je dois avouer, moi, j'ai jamais joué dans ce genre de situation-là. Donc,
le problème que je me pose, c'est je suis juriste de formation, donc j'ai un truc qui s'appelle la présomption d'innocence. Et le problème, c'est que tu peux avoir un comportement gênant parce qu'il y a deux joueurs ou deux joueuses qui ont un conflit extérieur et c'est ressorti pendant une partie. Donc, je pense que signaler aux gens qui doivent mener ou qui doivent modérer les PNJ qui interviennent sur le grandeur nature que tel joueur a un problème et a été problématique, c'est une bonne chose. Le signaler à tout le monde, tout de suite, non. Mais par contre, signaler aux gens qui sont censés vérifier que tout va bien, que, ah tiens, vérifie telle personne, là, ça peut poser problème, on ne sait jamais, c'est une bonne chose. Parce que ça va leur attirer l'œil, comme une main courante pour les policiers. Mais c'est pas... L'afficher au vu et au su de tous les joueurs, je ne sais pas. J'ai un peu de mal.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ça me paraît un peu... Ça dépend qui met ce drapeau, en plus. Enfin, c'est, voilà. Il y a toute une question de... Mais peut-être justement pour... quand tu décrivais l'histoire du drapeau, je me dis, est-ce que les joueurs eux-mêmes ne peuvent pas se déclarer quelque chose? C'est-à-dire, moi, je joue à fond, je m'en fous de ces conneries, machin, vous allez voir, je vais violer tout le monde. Voilà. Et donc, on sait que le joueur s'auto-déclare comme ça. J'ai envie de jouer. Il dit, j'ai envie de jouer comme ça. Et donc, il peut s'identifier lui-même. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des GN, mais je n'ai pas la référence qui me vient, là où justement les joueurs s'identifient en termes de niveau de je ne sais pas comment c'était, je ne me souviens plus comment c'était appelé, mais de dureté, on va dire, du jeu. Donc chacun se positionne dans cette grille-là, et je crois même qu'ils avaient un code couleur pour se dire, moi je joue à Donf, tu peux tout me faire, moi non, s'il te plaît. Voilà. Donc s'auto-déclarer, c'est peut-être une bonne idée, quoi. S'auto-déclarer pour afficher d'emblée jusqu'où tu es un peu prêt à aller. Et donc après aux organisateurs de peut-être regrouper les gens un peu par affinité. Alors ça ouvre, on peut ouvrir plein de ramifications dans une démarche comme ça. Il y a la violence, il y a le sexe, il y a plein de choses quoi potentiellement qui peuvent rentrer là-dedans. Donc je sais pas, il y a peut-être un truc à faire comme ça effectivement d'afficher. Moi je suis un joueur de ce type-là et toi d'un autre type et toi d'un autre type quoi.
J'sais faire pas. Un espèce de Peggy pour les joueurs.
Ouais, Peggy, c'est l'ensemble du jeu ou c'est par joueur? Enfin, ouais, non, moi, je suis un joueur 14 ans et plus.
Les joueurs disent, voilà, moi, je suis open pour la violence, je suis open pour tel truc, je suis open pour tel truc. Et non, par contre, ça, je joue pas. Comme pour le Peggy des jeux vidéo, où on indique tel niveau d'âge et attention, c'est violent, attention, il y a de la drogue, attention, il y a telle problématique et compagnie. Avec des petits logos, tout le monde sait de quoi il s'agit.
Ouais, c'est hyper intéressant parce que finalement, chacun peut mettre son niveau de facilité ou de difficulté face à certaines thématiques. J'ai aussi vu qu'il y a la X-Card qui peut dire stop, maintenant on arrête, et enfin, on ne discute même pas de ce qui est le problème, on continue de jouer, mais on arrête sur cette ligne directrice. Mais il y a aussi la carte O qui, elle, dit on peut continuer. Parce que, par exemple, on peut très bien jouer une situation qui peut paraître dangereuse ou gênante pour un des joueurs qui va jouer le rôle de quelqu'un qui ne va pas bien, mais il peut jouer le rôle de quelqu'un qui ne va pas bien en allant très bien et en étant content et en voulant jouer ce rôle de cette personne qui se sent brisée pour X ou Y raison. Et il y a aussi cette carte-là qui peut dire « Oui, je joue le rôle, t'inquiète pas, on continue, il n'y a pas de souci. » Donc c'est aussi un autre moyen de pouvoir continuer à jouer et aussi rassurer l'autre de se dire non mais t'inquiète, là je suis pas en train de faire une crise, on joue, on continue, tout va bien.
Ouais, ça me paraît bien, moi. Ouais, c'est faire les deux, ouais, effectivement.
De toute façon, plus on parle, mieux c'est. En règle générale, plus on parle, mieux c'est. Et plus les joueurs ont les moyens de dire, voilà, in-game, hors-game, voilà, je suis bien, je suis pas bien, c'est plus fluide et ça évite le conflit. Tout bêtement, ça désamorce tout de suite le conflit. Donc c'est vrai que la X-Card, certains la prennent comme une agression parce que c'est hop, stop. Oui, mais quand on était petit, on jouait, on faisait hey, pousse, j'ai envie d'aller faire pipi, pousse, j'ai un poids de côté, pousse, non. Bah, c'est la même chose, la X-Card en fait. Donc si elle est là et qu'on n'a pas besoin de s'en servir parce que les gens ont discuté avant, tant mieux. Si la O-Card est là et ça permet aussi, tant mieux. Mais il faut, je suis d'accord avec Raphaël, il faut qu'on ait plusieurs solutions pour faciliter, intégrer tout le monde et que tout le monde se sente en sécurité et se sente à sa place. Parce qu'il y a deux choses, il y a le fait de se sentir en sécurité et de se sentir à sa place. Parce que le nombre de joueuses qui m'ont dit « Ouais, mais toi tu joues au jeu de rôle parce que t'es la copine de machin, parce que tu veux te choper un mec. » Non. On peut être joueuse parce qu'on aime jouer. Tout bêtement, et qu'on n'est pas forcément venu pour accompagner son mec, son frère, son machin, on a envie de jouer. Et on cherche pas forcément un mec en étant autour d'une table de jeu ou dans un GN. Voilà.
Je suis bien d'accord. Alors, pour revenir un peu sur les rôles féminins, et effectivement, on peut se rendre compte que sur beaucoup de jeux de rôle, mais aussi sur des jeux vidéo, hein, on peut aussi ouvrir sur les jeux vidéo, on va avoir malheureusement des rôles féminins qui vont être la femme d'eux, la petite copine d'eux, la mère d'eux, ou la fille d'eux, et qui ne vont pas finalement avoir de quête propre, mais toutes les quêtes ou les actions vont avoir pour but d'aider le héros masculin. Est-ce que... pour éviter ce genre d'écueil, est-ce qu'il faudrait faire attention et relire, bien sûr, tous les backgrounds pour vérifier à chaque fois que chaque personnage, un féminin comme masculin, ait vraiment des quêtes propres et n'est pas le substitut d'un autre joueur? Ou est-ce qu'il faudrait dégenrer les rôles?
Personnellement, moi, quand on écrit maintenant, on crée un personnage sans se poser la question de son genre, de son peuple ou quoi que ce soit, on le tire au hasard après. Donc on invente un personnage, on lui invente une personnalité, des choses comme ça, puis on tire son genre et on regarde ce que ça donne. Si ça colle, si ça colle pas, si ça crée une autre dynamique, et c'est assez drôle à faire.
Alors, moi, effectivement... les jeux de rôle auxquels je joue le plus souvent, c'est vampire, donc tous les jeux fantastiques et autres. Donc forcément, la fille 2, la femme 2, la petite amie 2, elle a des crocs, elle va t'attaquer pareil. Donc bon, ça change pas grand-chose. Et on peut faire des quêtes politiques et autres, ça c'est mon régal. Et on se fiche un peu du genre. Et en jeux vidéo, les jeux vidéo, les MMO et autres, je joue, on crée le personnage. Et on peut créer le personnage avec le genre ou le sexe au départ, mais après on peut créer à la fin. Et comme c'est des jeux, les personnages ont leur quête propre quand on joue en solo. Et après, dans les guildes, on arrive, voilà, j'ai mes compétences, j'ai mon machin, tu me prends ou tu me prends pas, et puis voilà. Mais et dans le jeu vidéo, souvent... un truc, il y a beaucoup plus de joueuses qu'on ne pense parce que tout bêtement, les joueuses vont prendre des pseudos qui sont épicènes. Moi, dans les jeux vidéo, c'est Leto. Ça peut être un homme ou une femme. Les gens ne le savent pas. C'est très bien. Et j'ai autant de personnages hommes que de personnages femmes. Toutes races confondues. Donc, nécromant, n'importe ce que tu veux. Et généralement, par contre, les classes purement soigneur et compagnie, faut pas compter sur moi. Je déteste soigner les autres.
C'est pas bien. Ouais, moi j'adore ton protocole de tirage au sort en fait, parce que on a tendance à reproduire des clichés même sans s'en rendre compte en fait, et dans une grande partie de la littérature du cinéma qui inspire les jeux de rôle, donc médiéval, fantastique, science-fiction, nos ancêtres, enfin nos références sont vachement sexistes, hein, faut pas se voiler la face. Et donc même si on essaye de faire attention vite fait, on a tendance à vachement reproduire ces travers-là, et donc souvent les femmes sont des filles d'eux ou autres. Donc tirer le sexe au sort, je trouve que c'est une bonne idée. Moi, dans mes romans, j'ai pas mal de personnages féminins, en fait, et donc j'ai essayé d'expérimenter ça. C'est pas simple, hein, d'écrire un personnage féminin quand on est un homme, c'est du boulot, quoi, vraiment. Et c'est réussi ou pas, vous me direz, ceux qui ont lu, c'est à vous de voir, c'est pas à moi. Mais et ça m'est arrivé de faire exactement la même chose, c'est-à-dire dans une nouvelle où j'avais 9 personnages, où j'avais, c'était une situation, c'était à la Volt, l'anthologie qui s'appelle Sauf qui peut, sur l'avenir de la santé, parenthèse. Et donc je voulais décrire plein de situations de la santé de demain, et j'avais 9 stéréotypes, en fait, et ben à la fin j'ai tiré au sort le sexe des 9, et c'était super intéressant. Parce que alors il se trouve que c'est un mec à la fin, mais par exemple le milliardaire africain, tout le monde voit un mec tout de suite, mais non, si c'était une femme c'est peut-être vachement intéressant, en fait. Et donc faire ça, se forcer à changer les codes, en fait, c'est très riche, même en rôle, en fait. C'est super intéressant au niveau du rôle, en fait, de justement pas faire ce que tout le monde attend. La soigneuse, c'est pas forcément une soigneuse, c'est peut-être un soigneur. Le barbare, c'est peut-être une barbare. Bon, ça, c'est assez classique, ça, mais tu peux le faire pour n'importe quel type de rôle, quoi. Et donc, pour moi, c'est justement arrêter de penser les rôles stéréotypés comme ça, c'est vachement intéressant.
Et tu dis que c'est difficile d'écrire un rôle féminin pour un homme, mais aussi difficile de l'écrire quand on est une femme. Hein. On est tellement baigné dans une culture où la femme, elle est soit faible, soit forte. C'est difficile de faire un personnage qui n'est ni l'un ni l'autre. Et parce que les femmes fortes, c'est pénible, la force, quoi.
Non, mais une femme forte, c'est aussi un stéréotype, en fait. Un bon personnage n'est ni fort ni faible, en fait. Il est entre les deux, il a ses faiblesses, ses forces, il est équilibré, quoi.
Un personnage est réaliste s'il a des faiblesses, de toute façon. Autrement, c'est pas du tout réaliste. En parlant de soigneur, moi, j'ai eu une image qui m'est venue là, juste là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour Halloween, là, il y a des infirmières qui sont allées dans des magasins de vente de costumes et qui ont mis des vrais costumes d'infirmières et pas du tout les costumes d'infirmières sexy qu'on peut avoir, hein, qu'on peut voir. Moi, j'avais trouvé ça très très drôle de se dire, c'est ça l'infirmière, hein, c'est pas l'autre côté. Et effectivement, dans nos imaginaires, dans certains films, hein, dans certains romans de science-fiction ou de fantasy, hein, on va avoir ces personnages féminins qui sont souvent des personnages potiches, hein, qu'on retrouve aussi dans les jeux de rôle. Hein. Finalement, c'est cette problématique de sexisme, de misogynie, ça date, hein, c'est pas récent. J'ai quand même l'impression, vous n'êtes peut-être pas du même avis que moi, mais que les choses changent et qu'on en a de plus en plus conscience et que on essaie de plus en plus de faire attention quand on crée des personnages, quand on crée des jeux de rôle, quand on écrit des personnages féminins, quand on les dessine aussi. Et moi, j'ai un peu cet espoir que plus on en parle, plus on fait des conférences dans des lieux aussi magnifiques que les Utopiales, plus ce sujet il va devenir de moins en moins important parce qu'il n'aura plus lieu d'être.
Je suis entièrement d'accord. c'est sûr que plus on en parle, plus on fait de la prévention et mieux ça se passera. Puis la société change, quoi. Il s'est passé des choses qui ont fait évoluer les choses. Donc que ça soit dans le monde du cinéma, dans le monde de la littérature ou dans le monde du jeu de rôle, les choses évoluent et heureusement. Mais plus on aura d'autrices, et à mon avis, plus ça bougera vite.
Et en fait, il faut voir aussi une chose, c'est que là, on entend beaucoup parler de problèmes autour de la XR des compagnies. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une minorité qui sont menacées. Et on a eu les mêmes dans le jeu vidéo avec le Gamers Gate, on a eu les mêmes avec les sad puppies dans la SF. C'est une minorité. Ah, mais on ne parle plus de nous, qu'est-ce qu'on fait ? Non, c'est pas possible. Mais on ne t'a pas retiré tes vieux livres de SF et compagnie, on ne t'empêche pas de les lire. On ne t'empêche pas de continuer à lire des auteurs blancs et compagnie. On te dit, écoute, il y a aussi des autrices, il y a aussi des auteurs de couleur, il y a aussi des auteurs queer. Voilà, ils sont là aussi, ils ont le droit de citer. Pareil dans le jeu vidéo, pareil dans le jeu de rôle. On ne t'empêche pas, si tu as envie de jouer ton jeu de rôle complètement bourrin, complètement sexiste, machin, joue avec tes potes qui sont d'accord pour ça. Mais à côté, il y a des gens qui ont envie de jouer de façon différente. Donc c'est pas la peine de hurler à la mort que de dire que ouais mais non, on t'empêche pas de jouer. On te dit juste voilà, quand tu es en public, il y a la X-Card, il y a d'autres, il y a Salcam et compagnie, et tu fais pas n'importe comment en public dans un jeu de rôle, comme tu fais pas n'importe comment en public dans la vraie vie. Excusez-moi, je vais être vulgaire, c'est tu sors pas ta bite dans un jeu de rôle comme tu sors pas ta bite dans la rue, dans le métro. C'est pareil. Et c'est, tu te tiens dans un jeu de rôle tout en ayant conscience effectivement du rôle que tu joues. Donc si ton personnage est une ordure de première, bah, tu es forcé de te comporter comme une ordure de première parce que c'est ton personnage. Mais tu respectes les autres joueurs et joueuses à ta table comme tu peux respecter les autres gens dans la vie. C'est tout. Et je pense que c'est effectivement une minorité qui est très vocale, qui est très violente, mais ça reste quand même une minorité. Et au fur et à mesure, bah, ça sera encore plus, qu'on fera de la prévention, qu'on discutera, bah, ça va être de plus en plus une minorité qui va disparaître, j'espère.
Oui, non, je suis d'accord, mais oui, on va dans la bonne direction, mais je pense qu'on vient de loin. Donc il faut rester vigilant. Et puis il ne faut pas penser que c'est acquis non plus. Hein. Récemment, on a vu des pays revenir sur des droits que moi je pensais fondamentaux et acquis. Non. Donc il faut faire. Donc, bon, je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt, en tout cas ici et maintenant, dans une direction qui est vachement positive. C'est très bien. Mais il faut rester vigilant et puis avoir conscience que le chemin n'est pas fini parce qu'on vient de loin. Quoi.
Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Eh bien, on a un peu de temps pour les questions. Est-ce que dans le public, il y a certaines personnes qui voudraient poser des questions ? Non ? Oui ? Le micro arrive. Voilà. Là,
sur le côté.
Bonjour.
En fait, on ne met le micro que pour les femmes. Les hommes n'ont pas le droit de parler.
Ah bon ? Ah oui, c'est ça.
Raté.
Bonjour et merci. Je pratique depuis un certain temps. J'ai arrêté après. Voilà. Et je me souviens, quand on pratiquait, en fait, on parlait bien de théâtre. Quand on parlait jeu de rôle. Donc, c'est étonnant. Enfin, moi, ça m'étonne de vous entendre parler de sexisme à ce moment-là, parce que on jouait vraiment un rôle. Chacun avait sa partie définie en fonction de. On pouvait tirer un personnage. On pouvait aussi même carrément choisir au hasard une feuille par moment, même sur du bête donjon. Enfin, du bête. C'est pas bête. Hein, du Donjon et Dragon. Et on se retrouvait souvent avec parfois des personnages féminins. Alors, bon, je suis l'ancienne garde. Hein, bon, j'ai joué beaucoup entre 84 et 88, 1900. Et voilà. Et maintenant, cette conférence, elle est intéressante parce que c'est pas une chose qui nous posait problème à l'époque, parce qu'on avait encore peut-être cette idée de théâtre sur table, comme on disait. On fait du théâtre sur table avec des dés. Je me souviens pas avoir eu, et pourtant je l'ai fait assez souvent avec des personnes. Alors en groupe connu, et puis en groupe aussi non connu parfois. Et on n'avait pas cette dimension. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une évolution aussi de la société de ce côté-là ?
Alors personnellement, je n'ai jamais eu de problème de. Comment dire, de personnes qui m'ont dit non, tu peux pas jouer ça parce que tu es une fille avant 5 ans. C'est-à-dire que on m'avait jamais dit non, tu vas jouer un personnage féminin parce que tu es une fille avant 5 ans. C'est vrai que c'est, pour moi, c'est un phénomène qui est récent. Maintenant, bon, voilà, c'est une expérience également, enfin, statistiquement, c'est pas valide comme réflexion, puisque c'est mon expérience personnelle. Et je suppose que voilà, les filles autour de moi, elles ont peut-être vécu autre chose. Et elles ont peut-être rencontré le problème bien avant moi.
En fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est que dans les années 80, le sexisme n'était pas aussi pointé du doigt, que ce soit dans le jeu de rôle ou ailleurs, qu'il est maintenant. Je rappelle que dans les années 80, c'était l'époque du Colari Cocochaud. Donc franchement, dans le genre sexiste, ça faisait mal. Et d'autre part,
c'était aussi une époque où on était moins crispé. Personne n'a reproché à Tim Curry de se balader en barési dans Rocky Horror Picture Show. Personne n'a dit dans les troupes qui jouent au Rocky Horror Picture Show pendant le film, on ne s'est pas dit, ah, il est homosexuel, ah, mais ce n'est pas un rôle de fille et compagnie. C'était un rôle, c'était du théâtre. Et les gens réfléchissent pas. Mais maintenant, la société s'est extrêmement crispée d'un certain côté. Peut-être parce qu'on avance dans la bonne direction et qu'il y a des gens qui disent, ah, mais non, ce n'est pas possible. Et ça pose problème. Et donc, c'est là que ça commence à se dire, non, mais tu ne peux pas parce que tu es une fille. Non, mais tu ne peux pas jouer ça parce que tu es un homme. Parce que le sexisme, c'est aussi dans l'autre sens. C'est dire à un homme, non, mais tu ne vas pas jouer une fille quand même. Tu te prends pour qui ? Non, mais si, il a envie de jouer une fille, il joue une fille. Ce n'est pas un souci. C'est chacun joue un rôle, se fait plaisir et essaye de prendre du plaisir à jouer avec les gens autour de lui, à la table ou dans un GN. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement, le sexisme, ça marche dans les deux sens. Interdire certains rôles à des filles ou faire des réflexions sexistes à des filles ou interdire certains rôles plus de soigneur, plus de bienveillance à des personnages hommes ou à des hommes en disant « Non, mais attends, tu vas pas jouer ta gondesse, là, s'il te plaît. » Bah oui, mais s'il a envie de tendre la main et pas tabasser, il a le droit aussi, hein, s'il a envie de jouer comme ça.
Une autre question là-devant ?
Bonjour, merci. J'ai l'impression qu'à un moment, enfin surtout au début, mais là ma question se pose vers la fin, qu'on est allé vraiment très loin dans ce qui était traumatisme, violence et tout. Moi, j'avais eu l'impression qu'à un moment, le sexisme était beaucoup plus, moins visible. C'est-à-dire, à mon époque, on se disait, ah, tu as une fille à ta table, tu as de la chance. Ah, c'est une autrice qui a écrit c'est une femme qui a écrit ce jeu-là. En quoi est-ce qu'il est différent ? Et donc, je pense qu'il y a eu pas mal de sexisme, et ça continue encore, parce que c'est des choses qu'on ne voit à peine, c'est-à-dire en tant qu'homme. Il y a pas mal de femmes qui, elles, font la réflexion quand, effectivement, on leur fait à elles-mêmes ce genre de réflexion. Donc, je pense que, par rapport au sujet qui a été évoqué, il y a quand même beaucoup de sexisme, il y a eu beaucoup de sexisme, simplement, la plupart des hommes ne sont pas rendus compte ou se sont rendus compte comme étant des exceptions, comme étant quelque chose qui ne faisait pas partie de l'ordre normal. Donc, je ne sais pas si vous avez aussi une réflexion, quelque chose à dire là-dessus.
Ah, c'est la théorie du not all men. Non, mais moi, je ne suis pas comme ça. Bah oui, mais on n'a pas dit que tous les hommes posaient problème. On n'a pas dit que tous les hommes étaient sexistes et compagnie. On a parlé des comportements extrêmes, mais il y a des comportements aussi... qui sont pas si extrêmes que ça, qui est juste, bah voilà, t'es la fille d'eux, t'es la femme d'eux, t'es la joueuse de la partie, donc on va te protéger parce que t'es fragile. Bah oui, mais ça se trouve, la personne la plus fragile, c'est pas la joueuse, c'est le nain, le personnage qui est joué par un nain, pour X ou Y raison. Et effectivement, quand les gens ne sont pas concernés, parce qu'ils ne sont pas... Ce ne sont pas des femmes, ce ne sont pas des LGBT, ce ne sont pas des personnes racisées. On ne voit pas le problème du sexisme, on ne voit pas le problème du racisme. Sauf quand on te pointe du doigt. Et quand c'est juste un petit truc sexiste, en passant une petite blague comme ça, on ne va pas arrêter le jeu juste parce qu'il y a une petite blague. Mais au fur et à mesure, c'est lourd. Mais effectivement, les gens autour qui ne sont pas concernés, ils ne la voient pas.
Mais même quand on est concerné, on ne se rend pas tout à fait compte des fois que le comportement qu'on a en face de nous est un comportement sexiste, parce que nous-mêmes, nous avons intégré ces schémas-là. Quoi.
Mais donc, effectivement, à un moment donné, on va dire, c'est bon. Mais c'est vrai que nous, en tant que joueuses, des fois, on ne s'en aperçoit pas que c'est un comportement sexiste, parce qu'on a toujours été élevé comme ça, et c'est à un moment donné, on réfléchit, ouais, mais non. Non, c'est pas normal.
Et puis, on est aussi habitué à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait des études scientifiques, on était 7 filles sur 42. Donc, le fait qu'on soit peu nombreuses à jouer, ça m'a jamais paru bizarre. Parce que, justement, les gens qui jouaient, c'était des élèves qui étaient dans des grandes écoles d'ingénieurs. Voilà, c'était un public qui était plutôt un public scientifique à une époque. Et donc, naturellement, puisque c'était les gens que je fréquentais, c'est comme ça que je suis venue au jeu de rôle, etc. Et je me suis jamais posé la question, mais pourquoi on est aussi peu de filles, quoi.
C'était finalement la normalité. Exactement. Donc, on accepte la normalité.
C'était plus les hommes qui se demandaient pourquoi il y avait aussi peu de filles.
Moi, j'ai toujours eu une plaisanterie. Je disais que j'étais pas une fille, donc.
Est-ce qu'il y a encore une question? Oui.
Oui, bonsoir. Bonsoir. J'avais une. Je suis ici. En fait, ce que vous avez dit avec la X-Card, etc., moi, ça me pose la question. En ce moment, il y a toute l'affaire avec Magla et les streameuses sur Twitch. Mmh. Est-ce que, du coup, une des solutions, ce serait pas tout simplement la tolérance zéro? C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui témoignent en disant que le moindre remarque, le moindre petit truc, en fait, la personne est ban. Et bien, est-ce que l'une des solutions aussi dans tout ce qui va être jeu public, que ce soit jeu de société, jeu de rôle, etc., c'est que même si c'est une petite blague, etc., c'est une tolérance zéro. Et ce qui amènera au fur et à mesure à beaucoup moins de sexistes dans le jeu.
Un des joueurs que j'ai interviewé avant de préparer la table ronde m'a dit effectivement, lui, quand il est meneur, il y a quelqu'un qui a un comportement de type « Ah ben je vais violer machin », même si c'est un PNJ qui n'est pas joué, ok, tu sors. Il n'accepte pas, il les fait sortir. Donc c'est une solution. Après, pour le cas du streaming du jeu de Magla ou des joueuses comme Kayane et compagnie, c'est autrement plus problématique parce que, à ma connaissance, à part où il y a eu des menaces de mort à Octogone, il n'y a aucune rôliste. Alors, je ne dis pas aucune autrice de jeux de rôle parce que il y en a qui ont été menacées physiquement, qui ont eu des menaces de mort à leur adresse et compagnie. Et effectivement, généralement, le problème s'arrête une fois qu'on a quitté la table ou qu'on a quitté la convention. Mais effectivement, à un moment donné, va falloir taper du poing sur la table et dire non, ça, c'est pas possible. Et il faut arrêter d'être ouais, mais bon, voilà. Donc, pour moi, l'une des solutions, ce serait de dialoguer d'abord en disant voilà, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous amuse, qu'est-ce qui va pas vous amuser, qu'est-ce qui va vous poser problème. Parce qu'on parle de sexisme, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelqu'un qui a la phobie des scorpions, quelqu'un qui, pour une raison X ou Y, a un trauma qui fait qu'il a été pris dans un tremblement de terre, donc il ne veut pas retrouver son joueur dans une situation claustrophobique. Ça peut être X mille raisons. Et après, quand on est autour de la table, faire attention à ce qui se passe dans le jeu et se faire attention à ce qui se passe entre les joueurs autour, les joueurs et les joueuses et autres. Autour et savoir, parce que se prendre des réflexions quand on est en train de jouer sur sa tenue, sur son décolleté, comme se prennent les streameuses quand elles sont en train de faire leur stream, non, c'est peut-être pas le problème, quoi, c'est peut-être pas le moment. Donc,
Ouais, moi je pense tolérance zéro dans certaines circonstances et si les règles du jeu sont bien écrites dès le début, c'est-à-dire que les gens savent qu'ils doivent pas, pourquoi pas, ouais, mais c'est peut-être pas la solution la plus pérenne parce qu'à la fin c'est quand même des espaces de liberté et donc si on rentre dans des systèmes très répressifs comme ça, on perd cet espace de liberté là aussi, donc faut bien doser l'équilibre, quoi, je pense.
Tout à fait, c'est pour ça que d'abord la prévention et après on dit stop, là ça suffit. Après il y a le cas des conventions publiques où il faut faire attention qu'on a un public qui est varié, on sait pas ce qu'il y a en face de nous, on sait pas qui va être notre table. Et aussi, un petit détail, on va peut-être avoir des mineurs à table. Ça serait bien d'y penser. De certains éléments du scénario, si on parlait de la d'une meneuse de 12 ans, on va éviter certains éléments de scénario quand on a un gamin de 13, 14 à table. Voilà.
Et après, ceux qui faisaient violer la surveillante, c'était des gamins de 14 ans. Hein. C'est eux qui ont fait leur scénario. Ça leur plaît peut-être.
Oui, mais c'est pas parce que ça leur plaît qu'il faut les autoriser en tant qu'adultes, c'est à nous de les canaliser.
Bonjour, merci pour votre intervention. C'est hyper important de parler des femmes dans le milieu du jeu de rôle et du sexisme, etc., etc., intersectionnalité. Et alors, je voulais plus répondre aux personnes qui sont intervenues avant moi, qui sont des joueurs un peu plus anciens que moi. Des fois, le sexisme se retrouve aussi dans les stéréotypes qu'on incarne, essentiellement. Et pendant une certaine période, les hommes qui jouaient des femmes jouaient des caractères, mais tellement spécifique. Et en tant que femme, à une table de rôliste comme ça, moi, j'étais extrêmement mal à l'aise de... Enfin, comment je me réapproprie la table et comment je me réapproprie la féminité dans ce milieu-là? Et si moi, je joue un personnage masculin, est-ce que je suis obligée de surjouer la beaufitude, la violence, toutes ces choses que je n'aime pas, mais qui finalement me feront respecter en tant que joueuse, parce que je serai capable d'incarner le masculin. Plus le fait que je me suis retrouvée confrontée à un certain nombre d'incels, de gens qui disaient « Non mais de toute façon, vous les meufs, si vous ne m'aimez pas, vous êtes des horribles personnes, quoi, et au secours, aimez-moi. » Et ça, c'est une problématique qui fait qu'à un moment, j'ai arrêté aussi le jeu de rôle, quoi, de me retrouver face à ces cas-là d'humains.
C'est dommage, justement. Ils ont gagné, en fait, puisque tu as abandonné. Donc, c'est pas parce que tu vis des choses négatives qu'il faut que tu abandonnes. Il faut que tu changes les personnes, enfin, que tu changes ton cercle, mais que tu ne t'arrêtes pas de jouer, quoi.
Je me suis notamment retrouvée face à un maître du jeu, un qui m'a fait subir 3 scènes de viol sur 3 scénarios différents, où à la deuxième, je lui ai dit stop, les scènes de viol, on arrête. Et avec un autre groupe, j'arrive, je veux jouer un personnage féminin, mais je demande un personnage féminin où direct je le présente comme un personnage laid, pas attirant. Et le gars, en fait, a réussi à détourner mon personnage pour en faire un personnage qui n'avait tellement pas confiance en lui, mais qui en fait était magnifique et qui faisait que tous les hommes tombent amoureux de lui. Sauf que moi, il ne m'avait pas dit ça. Il avait briefé tous les autres joueurs, sauf moi, sur le fait que en fait, j'étais trop belle et qu'il fallait me séduire. Non. Enfin, et du coup, c'est l'accumulation de maîtres du jeu insupportable, en fait, qui m'a fait dire, mais en fait, j'arrête, quoi, ça ne sert à rien de me battre.
T'as vraiment pas eu de chance. Hein.
As-tu pensé à mener toi-même?
Fais une partie avec la moitié.
Ouais, il faudrait que j'essaye. Non, j'avais peur de mener moi-même, j'étais pas prête. Oui.
Alors moi, ça remonte un peu, puisque j'ai pas rôlé depuis que j'ai 3 enfants. Mais c'est que vous avez pas eu de chance. Parce que, ayant été beaucoup maître du jeu, et entre autres avec ma future femme, donc étant ultra non sexiste, et ayant joué beaucoup de personnages féminins, étant très féminin dans ces personnages-là, vous êtes tombé sur... Vous n'avez pas eu de chance.
Mais c'est ce qu'on disait, il suffit d'une minorité ou d'une personne qui pose problème pour gâcher la partie autour. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a parlé que des joueurs peuvent avoir un comportement sexiste. Mais merci, parce que vous parlez des maîtres de jeu, des meneurs et des meneuses de jeu qui peuvent influencer dans le sens sexiste et autres. Et effectivement, bon, dans la sphère privée, on arrête de jeu, on fait « écoute, tu me saoules, là, je me casse et puis voilà ». Mais on est en convention, comment, où on a une grandeur nature, comment on va gérer ces meneurs de jeu, à qui on s'adresse. Et parce que, ouais, mais ça va, c'est ce scénario, il n'arrête pas de faire... nous faire des trucs de séduction, de viol, de machin, de bidule, où les femmes sont stéréotypées et autres, on en a ras-le-bol, avec qui on le dit. Donc il faut aussi prévoir ce genre de choses quand c'est le meneur de jeu, ou la meneuse de jeu, parce qu'effectivement le sexisme aussi existe avec des femmes qui sont pénibles, pose problème. Donc il faut aussi trouver des solutions pour que tout le monde soit en confiance, aussi bien les joueurs que les meneurs de jeu, que tout le monde. Et je pense que plus les tables seront diversifiées, plus il y aura des joueuses, plus il y aura des joueurs de racisés, plus il y aura des joueurs et des joueuses LGBT, plus il y aura de diversité, plus ça passera bien. Et en plus, plus le jeu sera riche, parce qu'il y aura plus de création.
Et en tant que femme, on a l'habitude aussi de s'interdire des choses. On va pas faire des études scientifiques parce que c'est pour les mecs. Ben là, c'est le même problème, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'interdire de jouer, on ne va pas s'interdire de mener parce qu'on est des femmes. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher la barre, il faut s'accrocher, quoi. Des tables, on peut en faire d'autres, on peut trouver d'autres joueurs. Dans les conventions, il y a des tas de meneuses, donc il faut essayer avec ces femmes-là, quoi. Et moi je dis jouer vers des meneuses, mais... J'ai eu des tas et des tas de meneurs hommes qui n'ont jamais considérer comme une fille, comme un truc, un objet qu'il fallait que qui servait à faire joli, comme un objet qui servait à mettre en valeur un homme, etc. Voilà, j'ai été face à des personnes qui m'ont toujours énormément respectée, quoi, aussi. Et c'est ces personnes-là que je remercie. Et les autres, bah, tant pis, quoi. C'est fini, je joue plus avec elles et puis c'est terminé.
Et ben, ça sera le mot de la fin. Effectivement, dialoguer, arrêter quand ça ne sert à rien de continuer avec certaines personnes, ouvrir les jeux, ouvrir le dialogue, mais aussi ouvrir à la diversité. Et c'est ça qui va sûrement permettre d'avoir des jeux de plus en plus sains pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup de vos témoignages. Merci au public. Merci.